Yes. J'ai maintenant la liste complète des séminaires jusqu'à la fin de cette année scolaire. Donc, aujourd'hui, mardi 16 octobre, donc à 11h, ce sera Roger Balian, du commissariat du service de physique théorique du centre d'études du Saclay, qui va nous parler d'un modèle simple exhibant la réduction du paquet d'ondes. La semaine prochaine, le 23 octobre, ce sera Christophe Salomon, du laboratoire Cassia-Brossel, qui parlera de mélange d'isotopes du lithium ultra-froid, un condensat au milieu d'une mer de Fermi. Le 30 octobre à 11h, ce sera Thomas et Beffen, du laboratoire des nanostructures à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, qui parlera des tamis à photons, une transmission optique exaltée à travers une ouverture nanométrique et le contrôle de la diffraction. Le 6 novembre à 11h, ce sera Antoine Edman du laboratoire Cassia-Brossel qui parlera de mesure et contrôle du mouvement brownien d'un miroir. Le 13 novembre à 11h, ce sera Jean Galibard du laboratoire Cassia-Brossel qui fera un séminaire sur l'expérience du baquet tournant avec un condensat de rubidium, nucléation et dynamique des tourbillons quantiques. Et enfin, les deux derniers mardis de novembre, le 20 et le 27, le séminaire donc, sera supprimé et remplacé par deux conférences du professeur Alan Griffin de l'Université de Toronto, Canada, qui fera donc deux conférences sur Two Fluid Aerodynamics of Stratford Gases. Voilà. Donc, j'aborde maintenant donc, le cours d'aujourd'hui, consacré, donc le premier cours sur vraiment les rotations, qui sera un condensat dans un piège tournant. Densité spatiale et champ de vitesse. Alors, je suppose donc que nous avons un condensat contenu dans un piège caractérisé par les trois fréquences propres oméga x, oméga y, oméga z, et je suppose que ce piège, on le tourne autour de l'axe z avec une vitesse angulaire oméga. Et on va essayer de répondre à un certain nombre de questions. S'il existe un régime stationnaire dans l'essentiel tournant, quel est ce régime stationnaire? Est-ce qu'on peut le calculer? Est-ce qu'on peut calculer la fonction d'onde qui décrit les atomes condensés? Deuxième question, est-ce que le condensat va changer de forme? Est-ce qu'il va garder la même forme dans un référentiel tournant? Quand on ne fait pas tourner le piège, le champ de vitesse est nul, le condensat est au repos. Quand on fait tourner le piège, est-ce qu'il va apparaître un champ de vitesse et quelle est sa structure? Est-ce que les phénomènes sont les mêmes suivant qu'il y a ou non interaction entre les atomes, suivant qu'on a un gaz parfait ou un gaz de Boson en interaction? Ce sont ces questions auxquelles j'ai essayé de répondre aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je m'intéresserai au moment cinétique et au moment d'inertie du condensat tournant et je vous montrerai qu'il y a une différence spectaculaire avec celle d'un corps solide en rotation. Alors, il y a deux paramètres importants qui vont décrire la rotation. D'abord, l'anisotropie du piège, on l'a définie comme epsilon égale oméga x carré moins oméga y carré sur oméga x carré plus oméga y carré. Il est évident que plus le piège sera anisotrope, plus ce sera facile pour lui d'entraîner le condensat quand il tourne. Si le piège était parfaitement isotrope, ce serait plus difficile. Donc nous allons étudier les phénomènes avec epsilon différent de 0 et regarder comment il se comporte quand epsilon tend vers 0. Deuxième paramètre important du problème, la vitesse de rotation. Est-ce que les phénomènes changent de comportement quand on passe d'une vitesse de rotation oméga faible devant oméga x et oméga y à une vitesse de rotation élevée? Donc ça c'est les deux paramètres, vu qu'il faut avoir pris dans l'esprit, donc epsilon et oméga. Et alors le plan, donc ce sera le suivant. Il me semble indispensable dans une étude de ce type de se rafraîchir la mémoire sur les rotations. parce qu'il faut bien comprendre quelles sont les grandeurs physiques qui sont associées aux objets mathématiques qu'on utilise dans la théorie, en particulier aux opérateurs de la mécanique quantique. Après ces rappels, je commencerai par étudier un cas simple, très simple, celui de boson sans interaction dans nos pièces. Et je vous montrerai maintenant qu'on peut faire un petit calcul extrêmement simple du niveau d'un étudiant en maîtrise pour essayer de comprendre la densité spatiale, le champ de vitesse d'un condensat tournant, et qu'on peut arriver ainsi directement à comprendre des phénomènes importants. Puis, je passerai au cas plus réaliste d'un condensat où les particules interagissent, et je me placerai à la limite de Thomas Fermi. J'écrirai l'équation de Gross-Putaïski dans le référentiel tournant, et on passera aux équations hydrodynamiques à cette limite, puis on essaiera de les interpréter physiquement, d'étudier leur contenu physique, et je vous montrerai ensuite qu'on peut trouver une solution stationnaire de ces équations dans le référentiel tournant, et j'en analyserai le contenu physique. Voilà donc le plan, et je commence, si vous voulez bien, par des rappels sur les rotations. Alors, je suppose que j'ai donc un système d'axes fixe, XY, et un système d'axes tournant, X', Y', tourné dans l'angle oméga T, avec les formules bien connues de transformation de coordonnées, et je suppose que le piège, donc, est entraîné avec le système X tournant, X', Y', Z'. Alors, pour décrire la dynamique d'une particule, on utilise le Lagrangien, L, qui, dans le référentiel du labo, c'est 1/2 de MV2 moins V extérieur de R. En réalité, là, je m'excuse, il faudra ajouter T, R de T, parce que dans le référentiel du labo, le piège tourne, donc le potentiel extérieur dépend du temps. Si je remplace ici V et R par leurs nouvelles coordonnées dans le référentiel tournant, j'obtiens le Lagrangien dans le référentiel tournant. Alors, la vitesse dans le référentiel du labo est égal à la vitesse dans le référentiel tournant plus la vitesse d'entraînement qui est oméga vectoriel R prime. Quand je remplace dans cette expression V par cette expression-là, j'obtiens le nouveau Lagrangien en fonction des variables V prime et R prime, et maintenant le potentiel extérieur est indépendant du temps. Et quand je développe ceci, j'obtiens un terme quadratique en V prime, un terme linéaire, un terme constant, et puis moins le potentiel extérieur. Alors, en mécanique quantique, on a besoin de partir des variables conjuguées, donc il faut définir les moments conjugués de R et R'. La variable conjuguée de V, c'est P, dl sur dv, c'est mv. Donc, dans le référentiel du labo, l'impulsion, c'est la quantité de mouvement. Dans le référentiel tournant, P', c'est dl sur dv'. Et si je reviens au transparent précédent, vous voyez, comme il y a un terme linéaire ici, on va avoir mv prime plus m oméga vectoriel r prime. Si je mets m en facteur, je m'aperçois que ça paraît m que multiplie v prime plus oméga vectoriel r prime, qui n'est d'autre que v. Donc, ça, c'est un résultat fondamental, vraiment, qui est important pour la suite. L'impulsion dans le référentiel tournant, c'est la même chose que l'impulsion dans le référentiel du laboratoire. Elle décrive la même grandeur physique. P et P' décrivent tous les deux la quantité de mouvement dans le référentiel du laboratoire. P' ne coïncide pas avec la quantité de mouvement dans le référentiel tournant. Et en mécanique quantique, dans le référentiel tournant, la grandeur physique P' sera représentée par l'opérateur H bar sur Mi, gradient par rapport à X', Y', Z'. Et cet opérateur-là, ça ne décrira pas la vitesse dans le référentiel du tournant, ça décrira la vitesse dans le système du labo. Donc, quand on aura la fonction d'onde dans le référentiel tournant et qu'on prend le gradient par rapport à X', Y', Z', ce sera la vitesse dans le référentiel du labo décrite par ses coordonnées dans les axes du référentiel tournant. Donc ça, c'est vraiment le point, à mon avis, un point essentiel pour comprendre tous ces problèmes. Alors, l'hamiltonien maintenant, l'hamiltonien, c'est PV moins L ou P' V' moins L'. PV moins L, on trouve rapidement que c'est P2 sur 2M plus V extérieur de R. P' V' moins L'. Bon, je donne ici les détails des calculs, je ne refais pas au tableau ici. Quand on réexprime tout en fonction non pas de V', R' et de P' et de R', on obtient un résultat très simple, que H', l'hamiltonien dans le référentiel tournant, c'est P'2 sur 2M plus V extérieur de R', l'hamiltonien qu'on écrirait normalement, moins oméga, la vitesse de rotation, L'Z, ou L'Z, c'est le R vectoriel P' projeté sur Z, c'est la composante sur Z du moment cinétique. Mais attention, Ceci, ce n'est pas l'énergie cinétique dans un sens tournant, c'est l'énergie cinétique dans un sens du labo. Quant au moment cinétique, L, R vectoriel P dans le référentiel du laboratoire, R' vectoriel P' dans le référentiel tournant, mais comme P' égale à P, c'est aussi R vectoriel P, c'est une égalité entre vecteurs ici, donc les opérateurs moment cinétique, L et L' décrivent tous les deux la même grandeur physique, qui est le moment de la quantité de mouvement dans le référentiel du labo et non pas dans le référentiel tournant. Enfin, dernier point à rappel, petit point de détail, on peut créer les équations de la dynamique dans le référentiel tournant. R' égale dH sur dP'. P' égale moins dH sur dR'. Qu'on prend l'expression de P' et qu'on prend ses dérivés. Après un petit peu d'algèbre de calcul d'analyse vectorielle, on trouve que M d sur dt de V', l'équation de la dynamique dans le référentiel tournant, c'est moins gradient par rapport à R' de V extérieur de R', ça c'est la force de piégeage, moins 2m oméga vectoriel D'. Ça, c'est la force de Coriolis, moins plus 1 demi gradient sur R' de M oméga carré R perpendiculaire prime carré, ça, c'est la force centrifuge. Donc, dans l'inférentiel tournant, l'équation de la dynamique contient donc la force centrifuge, la force de Coriolis et la force de piégeage. Voilà, donc, ça rappelle, le point important que je veux qu'on retienne, c'est que le gradient dans l'inférentiel tournant, c'est la vitesse dans l'inférentiel du labo, et non pas la vitesse dans le référentiel tournant. Alors, je passe maintenant à la deuxième partie du cours qui est bosons sans interaction. Alors, l'hamiltonienne de mon système de N bosons qui n'interagissent pas, donc c'est une somme d'hamiltoniens à une particule, H'I, sommé sur I, et chaque hamiltonien à une particule, ben, c'est l'équivalent quantique de l'hamiltonien que j'ai établi tout à l'heure, c'est P' carré opérateur sur 2M, plus M sur 2 oméga X carré X' 2, plus oméga Y carré Y' 2, plus oméga Z carré Z' 2, ça c'est le potentiel, qui maintenant est indépendant du temps, moins oméga, la vitesse de rotation, x' p'y, moins y' p'x. Et l'état du condensat dans l'essentiel tournant, ça va être décrit par l'état où tous les bosons sont condensés dans l'état fondamental de cette hamiltonienne. Donc, question, quelle est la fonction d'onde de l'état fondamental de cette hamiltonienne? C'est très facile, c'est un problème facile, on dit facile, qu'on peut faire le calcul, soit perturbativement, il est absolument élémentaire, à la limite où oméga est triptyque devant oméga x et oméga y, et il se trouve que comme c'est un hamiltonien quadratique, on peut aussi calculer exactement la fonction d'onde de l'état fondamental. Alors, quelques rappels sur l'oscillateur harmonique. Vous savez, comme toujours, l'oscillateur harmonique, il est très commode d'introduire les opérateurs A et A croix. On peut exprimer x et p en fonction de A et A croix, avec des positions qui sont sigma 0 sur racine de 2 et ih bar sur sigma 0 racine de 2, ou sigma 0, c'est le fameux paramètre racine de h bar sur m oméga 0, qui donne les dimensions de l'état fondamental. La fonction d'onde de l'état fondamental, c'est une constante de normalisation pi sigma 0 puissance moins 1 quart et puissance moins x 2 sur 2 sigma 0 2. Et la fonction d'onde du premier état excité, phi 1 de x, c'est pi sigma 0 puissance moins 1 quart, racine de 2 x sur sigma 0 et puissance moins x 2 sur 2 sigma 0 2. Et enfin, un dernier résultat dont je voudrais me servir, c'est que la valeur moyenne de x 2 dans l'état fondamental, c'est le carré de sigma 0 divisé par 2, c'est h bar sur 2m oméga 0. Alors, ceci étant rappelé, je peux maintenant calculer l'état fondamental perturbé. État fondamental perturbé. Phi 0, que j'appelle phi 0 tilde, à la limite où oméga est très petit devant oméga x et oméga y. Alors ça, c'est vraiment un problème élémentaire de mécanique quantique. On applique la formule des perturbations du deuxième ordre, du premier ordre, phi 0 tilde, c'est phi 0, moins oméga LZ, alors moins oméga, l'élément de matrice de L'Z entre l'état phi 0 et un autre état phi n, divisé par un dénominateur d'énergie et 0 moins n, et sommé sur n. Je peux supposer n différent de 0 aussi, c'est bien différent. Ah, Oui, c'est bien dit, cet endroit. Il n'est pas bien visible, mais c'est bien écrit différents zéros. Effectivement, puisque LZ n'a pas d'élément matrice dans l'état 6-0, qui est de moment cinétique nul. Alors, ce qui est amusant dans cette formule, c'est que LZ prime, quand je remplace X et PY, Y et PX par leur expression fonction de A et A3, ça va être une fonction de A à 3, AX à Y croix, AX croix à Y, AX croix à Y croix et AX à Y. Comme je pars de l'état fondamental, tous les opérateurs d'annihilation vont donner 0, sauf le seul opérateur, quand j'exprime L'Z en fonction de ces opérateurs, qui donne un résultat non nul, c'est AX croix à Y croix. Alors, AX croix est multiplié par un sigma 0. Quand je remplace donc, dans le X qui est ici, je vais avoir un sigma 0X sur sigma 0Y, c'est pour, ça c'est pour XPY. Et pour YPY, je vais avoir sigma 0Y sur sigma 0X. Donc, le point amusant, c'est que j'ai uniquement cet opérateur qui agit sur l'état fondamental, et ça me donne un seul état. Donc, dans le développement de perturbation de la fonction de monde, il n'y a qu'un seul état qui contamine l'état fondamental, qui va être nx égale 1, ny égale 1, nz égale 0, avec un coefficient qui est ih bar sur 2, racine d'oméga y sur racine d'oméga x, racine d'oméga x sur racine d'oméga y, et c'est tout. Alors, quand je remplace ça là-dedans, et 0 moins gn, je pars de l'état fondamental, c'est une certaine énergie, et je crée un quantum de x et un quantum de y, donc l'écart d'énergie, ça va être h bar oméga x plus oméga y, je réduis ça au même dénominateur, et j'obtiens finalement une expression très simple, si 0 tilde égale 0, 0, 0, plus i sur 2, oméga sur racine d'oméga x, oméga y, oméga y moins oméga x sur oméga y plus oméga x, 1, 1, 0. Ça, c'est l'état fondamental perturbé. Alors, en termes de fonction d'onde, je remplace maintenant les états 0x, 0y, 0z par leur fonction d'onde, et je reviens en arrière. Vous voyez que phi 1, on retrouve la fonction d'onde de l'état fondamental qui multiplie x. Et de même, phi 1y, ça va être la fonction d'onde de l'état fondamental pour y qui multiplie y. Donc, quand je vais écrire la fonction d'onde associée à l'état perturbé, je vais retrouver la fonction d'onde de l'état fondamental en facteur, qui multiplie 1, ça c'est le terme d'ordre 0, et le terme d'ordre 1, je vais retrouver la fonction d'onde de l'état fondamental qui multiplie x'y'. Puisque phi 1 de x, ça va donner un terme en x, et phi 1 de y, ça va donner un terme en y'. Et puis tout le reste, c'est les coefficients que j'avais tout à l'heure. Alors, n'oubliez pas maintenant que oméga est très petit devant oméga x et oméga y, donc cette quantité est toute petite, et j'ai 1 plus i quelque chose de tout petit, et c'est le début du développement de e puissance i, cette quantité. Donc, je trouve que l'état fondamental perturbé, phi 0 de x' y' z', c'est phi 0 x' y' z', l'état non perturbé, que multiplie et puissance i, m sur h bar alpha de x' y', où alpha est un paramètre homogène à une, à une vitesse de rotation qui est égale à moins oméga x moins oméga y sur oméga y plus oméga x, fois la vitesse de rotation du piège grand oméga. Donc, ce petit calcul extrêmement simple montre que dans le référentiel tournant, la fonction d'onde de l'état fondamental est tout simplement la fonction d'onde de la même fonction d'onde que dans le référentiel du laboratoire. Il y a une phase qui est apparue en plus, une phase qui n'est pas un facteur de phase globale, qui est une phase qui dépend de x' et de y'. D'accord ? Alors, maintenant, quand on a une phase, il faut tout de suite s'intéresser au gradient de la phase, parce que cette phase, ça représente une grandeur physique. Quelle est l'interprétation du gradient de la phase ? Je vous ai dit tout à l'heure que P' sur M, c'est la vitesse dans le référentiel du labo et non pas dans le référentiel du centre de masse. Donc si je prends l'opérateur J au polaire 0, qui est 1 demi de delta de R' moins R0 P' sur M plus P' sur M delta de R' moins R0, ça c'est le courant au point R0 dans le système du laboratoire. Et sa valeur moyenne dans l'état phi 0 tilde de R' T, quand je reporte ça là-dedans, je trouve que c'est H bar sur 2 amis, phi 0 étoile, delta prime phi 0 moins delta prime phi 0 étoile phi 0. Et quand je remplace phi 0 par l'expression que j'ai obtenue tout à l'heure, je trouve d'abord cette identité qui est bien connue, et je trouve que J de R0 et de T, le courant là, c'est rho de R0 et de T, c'est la densité de particules au point 0, que multiplie H bar sur M, gradient prime de S de R0 et de T, et ceci me montre alors clairement que le gradient de la phase de la fonction d'onde dans le référentiel tournant, que nous dit H bar sur M, c'est le champ de vitesse dans le référentiel du laboratoire. et non dans l'inflation tournante. Donc j'ai H bar sur M, la dernière prime, R0 et 2T, égale V de R0 et 2T. Alors maintenant que j'ai interprété ce gradient de K, je peux le calculer. Et le gradient de X', Y', c'est très facile. Hein. Je vais avoir le H bar sur M va se simplifier avec le M sur H bar ici. Et je vais avoir le champ de vitesse de composants alpha Y', alpha X' et 0. Et ça, c'est le champ de vitesse dans le référentiel du laboratoire, décrit par ses composantes sur les axes tournants. Alors, on peut le dessiner, on peut s'amuser à le dessiner. Enfin, c'est quand même pas la même. Garantit pas l'exactitude des vecteurs, mais grosso modo, on voit que c'est un champ de vitesse qui a cette allure-là. C'est meilleur cause de polaire. Le module de la vitesse s'écarte, croît linéairement comme s'écarte de l'origine. Il est nul ici. Et puis, ça fait un réseau dicarbone. Voilà le champ de vitesse qui naît. Alors, pour se rendre compte de ce que ça représente, c'est amusant de dessiner aussi le champ de vitesse d'un corps solide qui tourne. Et le champ de vitesse d'un corps solide qui tourne, c'est oméga vectoriel R'. Et le champ de vitesse d'un corps solide qui tourne, il est dessiné ici. Et vous voyez à ce moment-là que les vitesses sont tangentes à DCS, et puis leur module croît avec le rayon par rapport à l'origine, et c'est complètement différent. Donc vous voyez qu'un condensat, quand on le fait tourner dans un pièce tournant, ça a un champ de vitesse complètement différent d'un corps solide en rotation. Alors, encore quelques remarques. Donc, premier point important, le champ de vitesse d'un condensat tournant, ce n'est pas le champ de vitesse d'un corps solide. La figure que j'ai donnée ici, ça c'est le champ de vitesse dans le référentiel du laboratoire, décrit par ses composantes dans le référentiel tournant X', Y'. Si je veux avoir le champ de vitesse à un autre instant, je prends la même figure, et puis je tourne d'un angle oméga T', c'est ça me donne le champ de vitesse à un autre instant. Donc je prends cette figure et je la fais tourner, et ça me donne le champ de vitesse à différents instants. Mais à chaque instant, dans le système X', Y', le champ de vitesse à cette allure, c'est toujours le même. Et puis ça, il faut faire tourner ça à la vitesse oméga. Alors si maintenant je voulais avoir le champ de vitesse dans le référentiel tournant, ça je peux aussi m'intéresser à ce problème. À ce moment-là, il faut que je prenne le champ de vitesse précédent et que je lui retranche la vitesse d'entraînement qui est moins oméga vectoriel R'. Autrement dit, il faut que je prenne ces deux figures et que je retranche à ce champ de vitesse celui-là pour obtenir le champ de vitesse dans le référentiel tournant. Alors, donc vous voyez qu'on peut aller assez loin avec simplement deux petits modèles où les calculs sont élémentaires. Et on peut encore aller encore un peu plus loin. On peut calculer exactement la fonction de l'état fondamental. En effet, cet Hamiltonien-là, c'est une fonction quadratique de x', y', p'x, p'y, ou encore de ax, ax croix, ay, ay croix. Et une fonction quadratique, on peut toujours la diagonaliser par un changement de variable. Et je m'attends donc à ce que la fonction d'onde de l'état fondamental soit l'exponentielle d'une fonction quadratique de x', y'. Je vais chercher. Donc, je vais me poser la question, est-ce que je peux trouver une fonction d'onde qui est aussi bien de x', y', z', et puissance moins m sur 2 f bar, un terme en x2', un terme en y', un terme en z', un terme en x', y'. J'ai mis un i ici, parce que je présume que je vais trouver alpha réel, mais à ce stade, je ne fais aucune hypothèse sur alpha pour être aussi imaginaire. Alors, je reprends cette fonction que je cherche dans l'équation aux valeurs propres, et je vais agir dessus l'Hamiltonien, et je regarde si je retombe sur mes pieds, si je retrouve la même fonction, avec un coefficient qui serait la valeur propre. Alors, ce calcul, je vous donne juste les résultats, il n'a aucune difficulté, parce qu'on n'a plus à faire que des dérivés par rapport à x', y', z'. On trouve que H, le chapeau, agissant sur phi 0 tilde de x', y', z', c'est un terme en x' avec ce coefficient, un terme en y' avec ce coefficient, un terme en z' avec ce coefficient, un terme en x', y' avec ce coefficient, et puis un terme constant. Donc, si j'annule ce coefficient, celui-là, celui-là et celui-là, je trouve que phi 0 tilde de x', y', z' est une fonction propre de H avec pour valeur propre oméga x chapeau plus oméga x tilde plus oméga y tilde. Et ces quatre équations, ce coefficient égale 0, ce coefficient égale 0, ce coefficient égale 0 et ce coefficient égale 0, me déterminent les quatre inconnus qui sont oméga x tilde, oméga y tilde, oméga z tilde et alpha. D'accord? Donc mon problème est résolu. Et voilà les résultats qu'on trouve pour oméga x tilde, oméga y tilde, oméga z tilde et alpha, c'est quatre équations qui m'expriment. Alors, c'est des équations qui sont couplées parce que oméga x tilde carré, oméga y tilde carré sont exprimés en fonction de oméga x carré, oméga y carré que je connais, de oméga que je connais, mais du paramètre alpha qui lui-même est une fonction d'oméga x tilde, oméga y tilde. Donc, il faut que je résolve ces équations pour trouver, pour faire valeur de oméga et du paramètre d'anisotropie, les valeurs correspondant de tous les paramètres que j'ai introduits. Mais le résultat important, si je reviens en arrière, le résultat important, c'est que comme j'ai trouvé que ce paramètre est réel, ça c'est réel, ça, et ça c'est imaginaire, donc la phase de la fonction d'onde exacte a la même dépendance en x, y que la phase de la fonction d'onde perturbée. Donc le champ de vitesse aura la même forme, la même structure spatiale. Donc la structure que j'ai donnée tout à l'heure, c'est une structure qui donne la vraie pour n'importe quelle vitesse de rotation. Par contre, les paramètres qui multiplient x'2 et y'2, qui sont oméga x carré tilde, oméga y carré tilde, eux ont changé. C'est-à-dire que si je tourne le condensat suffisamment vite, la forme du condensat va changer, son anisotropie va changer. C'est l'effet des forces de centrifuge qui vont changer, Coriolis, qui vont changer la forme du condensat. Donc, en résumé, on a toujours un champ de vitesse en gradient de x' et y'. Par contre, l'anisotropie, qui ne change pas aux faibles vitesses de rotation, change aux grandes vitesses de rotation. Bon, je passe maintenant donc au point suivant. Prenons ça à la limite de Thomas Carmi. Je vais te dire pour maintenant les interactions, mais je vais les supposer suffisamment grandes pour qu'on puisse faire les approximations bien connues pour la limite de Thomas Carmi. Alors, voilà l'équation de Gross-Pitaevsky, dépendant du temps, complète la phase d'approximation, énergie cinétique, énergie potentielle d'un entier indépendante du temps, puisqu'on est dans la potentielle tournante, énergie d'interaction, et ça c'est le terme nouveau qui provient du fait que dans la Hamiltonienne à une particule, on a un terme nouveau qui est moins oméga L'Z. Donc on a un terme nouveau par rapport à l'équation de Gross-Pitaevsky précédente, et l'approximation Thomas Fermi consiste à négliger ce terme. Alors, je ne vais pas travailler sur cette équation, mais je vais travailler sur les équations hydrodynamiques qu'on obtient en remplaçant phi par la racine carrée d'une densité qui multiplie puissance IS. Si on pose phi égale racine carrée de rho et puissance IS, et qu'on porte ça dans l'équation précédente, l'équation complexe conjuguée, et si on néglige le terme de pression quantique, qui est l'équivalent du terme d'énergie cinétique, en laplacien de racine de rho sur racine de rho, on obtient les fameuses équations hydrodynamiques, équations de continuité, équations de l'air, que j'ai longuement discuté dans le premier cours. Avec des nouveaux termes, qui proviennent du fait que dans l'équation de Gross-Pitaevsky, j'ai ici un nouveau terme par rapport à l'équation que j'avais dans les cours précédents. Alors, j'ai écrit maintenant les équations hydrodynamiques. Et vous montrer leur interprétation, vous montrer qu'elles sont en fait extrêmement simples et qu'on aurait pu les écrire d'emblée sans faire calcul parce que leur interprétation est vraiment très simple. Voilà, l'équation de continuité, elle a cette forme. D sur dt de rho de r' de t plus divergence de rho que multiplie h bar sur m gradient prime baisse point oméga vectoriel r'. Alors je m'excuse dans les notes, il manque la collade, donc je vais rajouter ici, égale 0. Alors que veut dire cette équation? Concentrons-nous là-dessus. H bar sur m, gradient prime S, ça c'est la vitesse dans le référentiel du labo, moins oméga R prime, ça c'est la vitesse d'entraînement, donc ce crochet-là, ce n'est rien d'autre que la vitesse dans le référentiel tournant. Et si je remplace ça par V', je m'aperçois que cette équation, qui est un peu compliquée à cause de ce terme, ce n'est rien d'autre que l'équation de continuité bête dans le référentiel tournant. D sur dt de rho, plus divergence de rho V' égale 0. Donc c'est l'équation de continuité dans le référentiel tournant, faisant intervenir le champ de vitesse dans le référentiel tournant. Équation de l'air. Alors, je la décompose en deux. D'abord, l'équation d'évolution de la phase, sans terme quantique. J'ai cette équation plus ce terme nouveau, proportionnel à l'oméga. Je prends le gradient des deux termes, je multiplie par 1 sur m, et j'obtiens l'équation d'évolution V, m d sur dt de V égale gradient de moins 2022, moins l'extérieur, moins Giro, tous ces termes sont comme avant, plus MV vecteur scalaire oméga vectoriel R'. Ce terme-là et ce terme-là sont des termes nouveaux. Alors, est-ce qu'on peut comprendre ce qu'ils représentent? Alors là, j'ai donné sur les transparents tous les tables intermédiaires du calcul de manière que vous puissiez les refaire si vous en avez envie, mais je vais ici passer un peu vite. Hein. D'abord, je calcule la dérivée totale de V'. La dérivée totale de V', c'est la dérivée partielle de V', plus V', gradient, prime, V'. Je remplace maintenant D sur dt de V' partielle, c'est D sur dt partielle de V moins oméga R'. Et quand j'écris D sur dt de V' R' et T, c'est à R' constant. Donc ce terme-là, je dois considérer quand je calcule que R' est constant. Donc la dérivée partielle par rapport à T de V', c'est la même chose que la dérivée partielle de V' par rapport à T. Donc, ceci étant, je reporte dans l'équation précédente, et j'ai maintenant M D sur DT de V', à condition de rajouter au deuxième membre M V' gradient prime de V'. Donc, j'essaie maintenant de comprendre ce que veut dire ce terme-là. Alors, c'est cette expression qu'il faut transformer. En utilisant, donc, j'ai de réécrire de nouveau cette équation. Et en utilisant des formules d'analyse vectorielle, et en utilisant le fait que le rotationnel de V' est égal à moins 2 oméga, alors ça c'est un problème intéressant. Le rotationnel de V est nul, parce que V est un gradient. La vitesse dans le référentiel du labo est un gradient. Mais le rotationnel de V' dans le référentiel tournant n'est pas nul, parce que V', c'est le V qui est de rotationnel nul, moins oméga, la vitesse d'entraînement, oméga vectoriel R', qui n'a pas de rotationnel nul. Donc la vitesse d'un corps solide en rotation n'est pas une vitesse de rotationnel nul. Bref, en reportant ça dans l'équation, on obtient finalement, pour V', une équation qui est très sympathique, qui est MD sur DT de V', égale moins gradient de V extérieur plus 0. Là, je crois que... Parce qu'on peut avoir un signe plus, hein, faut vérifier. Ça c'est la force de piégeage, la force, non c'est juste, la force liée au gradient de densité, la force de pression, ça c'est la force centrifuge, et ça c'est la force de Coriolis. Autrement dit, la deuxième équation de thermodynamique, qu'on la réexprime en fonction de V', ce n'est rien d'autre que l'équation de la dynamique dans le référentiel tournant. Donc récapitulation, les équations hydrodynamiques avec les nouveaux termes qu'on avait obtenus, ont une interprétation très simple, quand elles sont réécrites en fonction de V'. Elles ont la première, là, simplement l'équation de conservation, et la deuxième, c'est l'équation de la dynamique avec toutes les forces qui apparaissent dans le référentiel tournant. Bon, après avoir interprété donc, ces deux équations, je vais maintenant vous montrer qu'elles admettent une solution stationnaire. Et je vais donc montrer qu'il y a une solution stationnaire dans le référentiel tournant. Alors là, personnellement, j'ai toujours eu des difficultés en lisant les articles sur ces sujets, qu'on a l'impression que les gens parachutent la solution. En fait, je crois qu'on peut l'introduire de manière moins parachutée, si j'essaie de le faire de cette manière. Donc, dans le référentiel tournant, donc, tous les termes qui apparaissent dans les équations au second membre sont donnés pendant du temps, donc on peut espérer qu'il y aura une solution stationnaire. Et les deux équations stationnaires, donc c'est... Ça, c'est l'équation de continuité, égale 0, d sur dt de rho égale 0, donc c'est divergence prime de rho b moins oméga vectoriel à prime égale 0. Et je vous rappelle que la divergence de rho d'un scalaire qui multiplie un vecteur, c'est le gradient du scalaire de vecteur, plus rho, la divergence du vecteur. Donc je réécris ce terme de cette manière-là. Et l'équation pour la phase, d sur dt de f égale 0, ceci égale une constante, parce que une constante indépendante de x' et x' et z'. Voilà, il faut voir maintenant si ces deux équations ont une solution quadratique. Alors, je vais vous montrer que il existe une solution quadratique en x', y', z' pour la densité rho et la phase f apparaissant dans les équations précédentes. Ces deux équations, les équations 356. Alors, je vais écrire, je vais les chercher, hein. Donc, je vais écrire rho sous la forme 1 sur g mu tilde a moins une fonction quadratique de x' de y' de d' de x' de y'. Ça, ça ressemble beaucoup à une solution type Thomas Fermi. Hein. 1 sur g mu moins un potentiel. Et f, la phase, je vais écrire 1 sur 2 f bar. De même, une fonction quadratique en x' 2, y' 2, z' 2, x' y' et une constante. Alors, quand je regarde cette expression de S, la vitesse va avoir des composantes linéaires en x', y', z'. Maintenant, vous pourriez vous demander, pourquoi je n'ai pas pris des termes linéaires en x', y', z'. J'ai pas pris de termes linéaires à cause de l'invariance par réflexion par rapport à l'origine. Mon problème est invariant par réflexion par rapport à l'origine. Si j'avais des termes linéaires en x', y', z', il violerait cette invariance. De même, je n'ai pas pris de termes en x', z', et y', z', parce que le problème est invariant par réflexion par rapport au plan x, y'. Donc, ça, ce sont des formes a priori que je choisis, et je vais voir qu'elles marchent, et qui respectent les symétries du problème. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi je pense que ça va marcher, ça? C'est que V, tout ça, ça ne marche que parce que V est une fonction quadratique de x'2, y'2, z'2. Si je reviens en arrière, aux équations 356, V est quadratique. Si je prends rho quadratique, le gradient de rho, ça va être linéaire. V est linéaire, j'ai montré que comme la phase est quadratique, V est linéaire. Ça c'est linéaire, ça c'est linéaire. Donc ça, ça sera quadratique. Donc, tout ça, ça sera quadratique. De même, le gradient de S est linéaire, donc ça, ça sera quadratique. Ça c'est quadratique. Rho est quadratique. Ça c'est linéaire, ça c'est linéaire. Donc tout ça est quadratique. Donc si je prends une forme quadratique, en annulant les coefficients de x' de y' de z' de x' y' de terme constant, de cette équation à cette équation, j'aurai 10 équations qui me permettront de définir les 10 inconnus de mon problème. Les 10 inconnus qui sont ici, mu, oméga x tilde, oméga y tilde, oméga z tilde, gamma, a, b, c, d, alpha et d. Alors, en particulier, le champ de vitesse, v, c'est le h bar sur m gradient prime de s, et cette forme quadratique, je vais avoir un terme en ax prime, alpha y prime, alpha x prime plus bz prime, cz prime. Et alors, la divergence de V, ça va être A plus B plus C. A plus B plus C. Alors, si je reviens ici, à l'équation 356, je m'aperçois, j'ai un terme constant dans rho, ici. Et le V est linéaire, en x prime, y prime, z prime. Ce terme est linéaire en x prime, z prime, z prime. Donc, le gradient, il va avoir un terme constant. Et ce terme constant, le terme constant de rho, ça va me donner le seul terme constant dans ces deux équations. Quand j'annule ce terme constant, le terme constant de rho, qui est une constante, qui multiplie divergence prime de V moins oméga vectoriel R prime, égale 0. Donc, ça veut dire que ce terme-là est nul. Comme la divergence de oméga vectoriel R prime est nulle, j'en déduis que la divergence de V est nulle. Donc, je trouve que A plus B égale, je trouve que le champ de vitesse, donc à la limite de Thomas Fermi, ça va être un champ de vitesse non seulement irrotationnel, rotationnel nul, mais également de divergence nulle. Un peu comme les ondes de surface que j'ai introduites dans mon premier cours. Hein. Bon, je ne vais pas vous infliger la suite des calculs, disons l'annulation du terme en C'2 va me donner C égale 0, donc A égale moins B, l'annulation du terme en x' et y' va me donner alpha en fonction de oméga x carré tilde moins oméga y tilde oméga x carré tilde plus oméga y carré tilde. L'annulation des termes en x' 2 y' 2 et celui du terme en x' y' va me donner a égale b égale gamma égale 0. L'annulation du terme en z' 2 va me donner que oméga z carré tilde égale oméga z carré, ça c'est normal, le mouvement sur z n'est pas changé par la rotation. Et l'annulation des coefficients en x' 2 y' 2 de la deuxième équation, l'équation de l'air, va me donner les nouvelles fréquences, oméga x carré tilde, oméga y carré tilde, en fonction de oméga x, alpha et oméga. Ces deux équations qui rappellent tout à fait celles que j'ai obtenues pour l'oscillateur harmonique libre, pour le gaz de Poisson. Enfin, l'annulation du terme constant va me donner k égale mu tilde, et quand je reprends ça dans l'équation 347, je trouve que S varie comme une puissance moins j mutée sur h bar, qui n'est bien connue puisque la fonction d'onde évolue comme les puissances moins unité sur h bar. Hein, le problème est indépendant du temps. Donc ça, le terme confondé, je peux prendre arbitrairement, puisque la phase est définie par une constante globale près. Donc finalement, j'ai résolu mon problème. Et je récapitule ici. Donc vous pouvez refaire les calculs si vous le préférez. J'ai donc montré qu'il existe une solution de l'équation de Gross-Pitaïsky à la limite Thomas-Fermi, qui s'écrit dans le référentiel tournant, ρ égale 1 sur g mu tilde moins 1 sur 2 oméga x carré tilde x prime 2 plus oméga y carré tilde z prime y prime 2 plus oméga z carré tilde z prime 2. Un champ de vitesse v qui est h bar sur m gradient prime de s qui est alpha gradient prime de x prime y prime. Je rappelle que v est le champ de vitesse dans le labo et que ceci donne les composantes de v dans le référentiel tournant. Oméga x carré, oméga y carré, oméga z carré sont donnés par cette équation en fonction de alpha et de oméga, et d'oméga x, oméga y, et alpha lui-même est donné en fonction de oméga x carré, tilde, oméga y, tilde, et oméga par cette équation. Donc mon problème est bouclé. Alors, oui, allons-y un peu plus loin. Alors, ce qu'on peut même bien voir, j'ai trouvé une solution quadratique. Mais cette solution quadratique n'est pas, bien sûr, la seule solution possible des équations hydrodynamiques et des équations de Gross-Pitaïsky. Je vais le faire par un contre-exemple. On sait très bien, et je l'étudierai dans un des prochains cours, qu'il y a d'autres solutions dans la pensée tournante qui vont être les solutions correspondant à un tourbillon quantique, qu'on observe expérimentalement. Bon, j'ai trouvé une solution stationnaire dans la pensée tournante, mais ce n'est pas la seule. Alors, maintenant, je récapitule maintenant pour les résultats physiques qu'on a obtenus. D'abord, la forme de la densité spatiale. Bien, nous avons vu que, aussi bien en présence qu'en absence d'interaction, la densité spatiale est donnée par une fonction quadratique en x'2, y'2, qui ne contient pas de termes en x' et y' pour le module. Et ça, c'était pas pour moi, au moins pour moi, évident a priori, qu'on tourne pendant ça, il garde les axes du piège comme axe de symétrie. Il n'y a pas de décalage. Il ne se décale pas. Il tourne en gardant les axes de symétrie du piège. Par contre, oméga x tilde, oméga y tilde ne sont pas nécessairement égaux à oméga x ou oméga y. Sauf qu'on est à vitesse de rotation faible. Autrement dit, quand on augmente la vitesse de rotation, la forme du condensat, tout en gardant les mêmes axes de symétrie, change. Alors, la densité spatiale pour un condensat à la limite de Thomas-Fermi, d'après l'économie quadratique, ça va avoir la forme d'un paraboloïde inversé. Et quand le paraboloïde s'annule, ensuite, au-delà, on prend zéro. Hein. C'est un peu ce qu'on fait d'habitude. Donc, c'est un paraboloïde inversé qui s'annule en dehors des points où ce paraboloïde coupe le plan x sur y. Alors qu'en absence d'interaction, le condensat est une gaussienne qui admet les axes du biais comme axe de symétrie. Donc ça, c'est quand même une différence importante. Alors, question. Est-ce qu'il existe une solution? Je viens de trouver quatre équations qui me définissent oméga x, oméga y, tilde, oméga z, tilde et alpha. Alors, il faudra les résoudre. Ça, je ferai ça la prochaine fois, la semaine prochaine, en étudiant le moment d'inertie. C'est des équations non linéaires. Elles peuvent admettre plusieurs solutions. Il y a plusieurs branches possibles. Et les solutions profondes ne sont pas forcément acceptables physiquement. En effet, pour qu'elles soient acceptables physiquement, il faut que la densité soit normalisable. Il faut qu'elle soit positive. Alors, solution normalisable, il faut que je trouve un paraboloïde qui est cette forme et qui n'est pas cette forme. S'il avait une forme avec une concavité dirigée vers le haut, j'aurais aucune raison d'arrêter un endroit, la densité divergerait et je le jetterais. Donc, il faut absolument que oméga x tilde carré et oméga y tilde carré soient positifs. Les mêmes contraintes existent en l'absence d'interaction. Les valeurs d'oméga x carré tilde, oméga y carré tilde qu'on obtient doivent être positives. Par contre, la condition que la densité soit positive n'apparaît pas ici, parce qu'à partir du moment où oméga x carré tilde, oméga y carré tilde sont positifs, la gaussienne est toujours positive. Quant au champ de vitesse, il est donné toujours par le gradient de la fonction x' et y', et ça c'est un résultat important. Donc que ce soit un gaz parfait, que ce soit un gaz en interaction forte, qui tourne lentement ou qui tourne rapidement, le champ de vitesse a toujours la même forme, c'est le gradient de x' et y'. Dernière remarque. Alors que les équations qui donnent oméga x carré tilde 1, oméga y carré tilde 1 en fonction de oméga x, oméga y, alpha, oméga, ont la même forme, et ça c'est remarquable, pour le gaz parfait et pour le gaz interagissant fortement, l'équation qui donne alpha en fonction de oméga x tilde 1, oméga y tilde 1 n'a pas la même forme pour le gaz parfait et pour le gaz en interaction forte à la limite Thomas Fermi. Alors la plupart des calculs que j'ai tirés dans son, que j'ai expliqué aujourd'hui sont tirés de cet article qui utilise une approche légèrement différente. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, on a maintenant tout ce qu'il nous faut. On a la densité spatiale, on a le champ de vitesse, on a tout ce qu'il nous faut pour calculer le moment cinétique du condensat qui tourne dans la cancelle du labo et son moment d'inertie. En effet, le moment d'inertie est proportionnel, le moment cinétique est proportionnel à la vitesse de rotation, et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour calculer le moment d'inertie d'un condensat tournant. C'est ce que je ferai la prochaine fois. Et nous verrons que le moment d'inertie d'un condensat tournant est plus petit que le moment d'inertie d'un corps rigide qui tombe par un facteur extrêmement petit. Et ce sera le carré de l'anisotropie epsilon que j'ai introduit tout à l'heure. Donc, ça, c'est une manifestation spectaculaire de la superfluidité du condensat. Et pour vous montrer que c'est intéressant, que c'est inhabituel, je calculerai aussi la semaine prochaine le moment d'inertie d'un gaz parfait de boson dans un piège, partiellement condensé, c'est-à-dire un gaz de boson qui contient un condensat et un nuage thermique. Je le mettrai dans un potentiel tournant et je calculerai la contribution au moment d'inertie du nuage thermique et du condensat, et je vous montrerai que le condensat à moment d'inertie réduit par facteur epsilon 2, alors que le nuage thermique à moment d'inertie est égal à celui qu'il aurait s'il tournait comme un corps rigide. Donc ça montrera très clairement les différences entre les deux systèmes. J'étudierai ensuite les diverses solutions possibles de alpha, de l'équation que j'ai obtenue pour alpha en fonction de l'oméga x et l'oméga y. Je montrerai qu'il existe plusieurs branches et j'essaierai d'analyser les phénomènes qui se passent, intéressants qui se passent, quand la fréquence de rotation du piège arrive au voisinage de l'une des fréquences des modes de chauffage que j'ai introduit, que j'ai étudié la dernière fois, les modes quadripolaires qui tournent à la vitesse oméga x, oméga perpendiculaire sur racine de 2. Parce qu'il se trouve que l'excitation de ces modes de chauffage joue un rôle important dans la mutation de vortex, comme j'espère Jean Dalibat le montrera dans le séminaire qui fera le 7 novembre. Voilà, je vais m'arrêter ici. Comme la dernière fois, je serais ravi que vous posiez des questions, vous m'arrêtez même au cours du cours, je vous en prie, monsieur. Ce que j'ai montré, c'est que la forme du condensat le long de la fenêtre ne change pas. Mais le condensat a une expansion le long de la fenêtre. Donc il faut quand même, dans les équations de la dynamique, tenir compte de la force de piégeage le long de la fenêtre. Simplement, j'ai vérifié, et le résultat des calculs montre que... Et vous avez raison, j'aurais pu l'annoncer au début, mais ce n'était pas bien gênant de garder le terme en tête et de montrer à la fin qu'il ne changeait pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Également, je vous remercie de m'indiquer toute erreur éventuelle que je laisse passer dans mes frappes de transparence. Bon, merci.